France Culture.
Stanislas. Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Le sommet sur la Nouvelle-Calédonie est-il déjà compromis? Les indépendantistes affirment aujourd'hui qu'il ne débouchera sur aucun accord alors que les discussions n'ont même pas commencé. Explication dans un instant avec Stéphane Robert. Le Rassemblement National à nouveau soupçonné de détournement de fonds au préjudice du Parlement européen. Le Parlement qui confirme l'existence d'un rapport révélé par la presse européenne. Nous ferons le point à Bruxelles avec Fabien Cazot. La France menace l'Iran de sanctions si le régime des Mollahs ne libère pas Cécile Kohler et Jacques Paris. Les deux Français sont maintenant accusés d'espionnage au profit d'Israël. Une dizaine d'Occidentaux sont aujourd'hui détenus dans le pays. La junte militaire renforce son pouvoir au Mali. Le chef de la junte, Assimi Goïta, va devenir président de la République sans passer par des élections. L'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie passe une nouvelle fois par Paris. Emmanuel Macron a ouvert hier à l'Élysée un sommet qui réunit les loyalistes et les indépendantistes kanak. Le président a évoqué la piste d'un État associé avec la France pour sortir de l'impasse, plus d'un an après les émeutes qui ont frappé l'archipel français du Pacifique. Mais il a fermé la porte à une indépendance totale. Les discussions politiques commencent ce soir à Bougival, dans les Yvelines, mais les indépendantistes ont d'ores et déjà tracé leur ligne. Ligne rouge. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le FLNKS, qui regroupe la mouvance indépendantiste calédonienne, affirme que ce sommet ne débouchera sur aucun accord.
Non, il n'y aura pas d'accord à l'issue de ce sommet parisien sur la Nouvelle-Calédonie. Peut-être les prémices du début d'un accord, mais qu'il faudra faire valider en Nouvelle-Calédonie, a expliqué le chef de la délégation indépendantiste Emmanuel Tchibaou. Car chez les Kanak et les autres communautés qui composent le camp indépendantiste, les décisions se prennent de manière collective.
Nous, on est FLNKS, on a des structures qui composent des partis différents au sein du FLNKS. Donc c'est aussi pour ça que les perspectives d'avancer sur un accord, elles sont d'abord sur le cadre de départ, la temporalité dans laquelle ça s'inscrit, le contenu, et puis après qu'on fait valider par nos instances. Donc oui, il y aura un nécessaire retour auprès des structures avant de s'avancer sur la finalisation du projet politique institutionnel qui va sortir des discussions.
L'autre difficulté pour le camp indépendantiste est que le président du FLNKS, Christian Théin, incarcéré pendant plusieurs mois suite aux émeutes déclenchées il y a un an, n'a pas été invité à participer à ce sommet. Il était présent à la conférence de presse donnée ce matin par la délégation indépendantiste et pour lui, ce qui peut être négocié n'est pas autre chose qu'un chemin vers l'indépendance.
Je suis assez triste quand même de voir que... Ben, je n'ai pas accès en tant que président du FLNKS. Mais comme je l'ai dit, on est là pour assumer le travail et j'ai fait confiance au chef de délégation. Parce que politiquement, je crois plus que jamais au travail que la délégation et le poids pour amener notre pays là où on a décidé de donner rendez-vous, le rendez-vous de l'histoire de notre peuple. Il faut fermer la parenthèse coloniale de notre pays. Je vous le dis encore une fois sur cette âme, nous ne renoncerons jamais aux rêves de nos pères.
Le chemin pour trouver un accord est ténu car en face, dans le camp non-indépendantiste, les loyalistes et les républicains calédoniens ne semblent pas prêts à faire plus de concessions que leurs homologues indépendantistes. Pour eux, la question du maintien de l'archipel au sein de la République française a été tranchée par les trois référendums organisés entre 2018 et 2021.
Stéphane Robert, merci. La Nouvelle-Calédonie, il en a été question aujourd'hui dans les matins de France Culture. Avec vous Stéphane, émission à retrouver sur notre site et sur l'application Radio France. Trois mois après la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, le Rassemblement National est à nouveau soupçonné de détournement de fonds au préjudice du Parlement européen. Information révélée par Le Monde et d'autres journaux européens. L'enquête porte sur des fonds alloués au groupe Identité et Démocratie, groupe dans lequel siégeait le RN jusqu'à l'an dernier. Il est question de 4 millions d'euros qui auraient servi à financer des prestataires extérieurs sans aucun lien avec l'institution européenne. Nous sommes avec Fabien Cazot à Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Fabien, vous avez eu confirmation de l'existence d'un rapport qui met effectivement en cause le groupe Identité et Démocratie.
Oui, un rapport pas encore publié, ni même terminé d'ailleurs, mais qui existe bel et bien. En fait, il s'agit d'un travail de routine mené par les services financiers du Parlement européen chaque fois qu'un groupe politique se dissout ou disparaît pour vérifier que l'argent distribué par le Parlement européen a bien servi à remplir des missions européennes. C'est là-dessus que portent les soupçons. Marine Le Pen regrette les noises, je cite, que le Parlement européen cherche selon elle à sa famille politique. Rien de plus normal, lui répond l'eurodéputé écologiste Majdouline Sbahi.
Ce qui est très inquiétant, c'est d'une part qu'on découvre que de l'argent qui doit servir normalement à la vie du groupe politique au sein du Parlement européen ait pu être utilisé à d'autres fins. On s'inquiète également de savoir qui a travaillé comme prestataire. Moi, j'ai croisé un membre de Génération Identitaire dans un ascenseur qui était accrédité par le Parlement européen. Et c'est une personne qui, en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'elle était surveillée par les renseignements français. Donc, finalement, ces révélations, elles viennent nous inquiéter encore plus sur le respect par l'extrême droite européenne de la conformité des dépenses avec ce qui est autorisé ou pas pour les groupes politiques.
Le rapport d'enquête sur ce groupe, donc Identité et Démocratie, sera transmis à la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen courant juillet, puis le cas échéant à la présidente du Parlement qui décidera ensuite d'éventuelles suites judiciaires à donner.
Fabien Cazot en direct de Bruxelles, merci. L'État français a-t-il une vision pour les multiples agences et opérateurs qu'il contrôle ? Non, répond une commission d'enquête sénatoriale qui pointe un archipel d'organismes étatiques qu'il faudrait réformer. La droite évoque un gisement d'économie de plusieurs milliards d'euros, de quoi intéresser François Bayrou, qui doit présenter à la mi-juillet ses pistes budgétaires. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Alors, que dit précisément cette commission d'enquête ?
Alors déjà, la commission sénatoriale a voulu faire un recadrage politique. Les agences seraient-elles des coquilles vides gaspillant de l'argent public ? La réponse est non pour la rapporteure LR Christine Lavarde. Le gouvernement doit assumer ses choix. Les agences ne doivent pas devenir des boucs émissaires des aides publiques que le gouvernement voudrait supprimer aux Français. Et en réponse à l'allusion aux déclarations de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui avait déclaré vouloir réaliser 2 à 3 milliards d'euros d'économies en supprimant ou fusionnant un tiers des opérateurs d'ici 2027, c'est au tour du président communiste de la Commission, Pierre Barros, d'être clair, il n'y aura pas de SERP, pas de hache, et encore moins de tronçonneuse, rajoute même la rapporteure.
Pour autant, Annabelle, les sénateurs jugent que des économies sont envisageables.
Oui, par une meilleure organisation des opérateurs, notamment par la mutualisation de certaines fonctions support, c'est-à-dire la paye, le recrutement, la gestion des carrières, on y gagnerait 540 millions d'euros sur 3 ans. Loin donc des 40 milliards que cherche le gouvernement pour combler le déficit, mais le rapport de 220 pages soumet une soixantaine de recommandations avec une méthode au cas par cas pour chaque agence. Alors fusion pour certaines, quand leurs missions sont similaires, c'est le cas par exemple de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, et les GRETA, les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement pour la formation professionnelle. Disparition pour d'autres, à leur niveau régional, pour renvoyer leurs missions dans le périmètre des préfectures. Citons les ARS, agences régionales de santé, et les CROUS, par exemple, ou suppression de l'Agence nationale du sport, l'ANS, pour réintégrer le ministère des sports. Même chose pour l'agence bio. Autre exemple, l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la Commission ne préconise pas sa fermeture, mais elle la cantonne à sa mission d'accompagnement. Concrètement, l'ADEME ne lancerait plus d'études de sa propre initiative, ne ferait plus de communication et ne verserait plus de subventions. Autant de missions qui seraient assurées par les ministères et les préfectures. Alors, je finis, Stanislas, avec ce dernier exemple. L'OFB, hein, qui était dans le viseur de la droite sénatoriale depuis des mois. Pour cette commission, l'Office français de la biodiversité doit garder la mise en œuvre de la préservation de la biodiversité, mais perdrait ses missions de police de l'environnement qui seraient confiées à la gendarmerie ou encore aux douanes.
Merci Annabelle pour ce tour d'horizon complet. Le Sénat qui a adopté aujourd'hui une proposition de loi pour autoriser certains établissements comme les boulangeries ou les fleuristes à faire travailler leurs salariés lors du 1er mai. Initiative soutenue par le gouvernement et fustigée par la gauche et les syndicats. Le texte des sénateurs centristes a été adopté en première lecture avec 228 voix contre 112. Il va être transmis à l'Assemblée nationale. Il vise à étendre le périmètre des commerces bénéficiant d'une dérogation pour faire travailler leurs salariés s'ils sont volontaires pendant la fête du travail. La France inflige une lourde amende à la plateforme chinoise Shein, 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. La direction des fraudes a enquêté sur le géant de l'ultra fast fashion. Elle a pu démontrer plusieurs types d'infractions sur les prix et les allégations environnementales, Sophie Auvigne.
L'enquête aura duré près d'un an jusqu'en août 2023, le temps de passer au crible les prix de plusieurs milliers de produits sur le site de la plateforme chinoise. Les prix de vente, les prix barrés et le pourcentage des réductions, puisque Shein inonde ses clients de promos permanentes, à en perdre la tête, tant le battage numérique donne l'impression de réaliser des affaires exceptionnelles. On en est très loin, selon les conclusions de la DGCCRF, la direction des fraudes. 9 fois sur 10, c'est faux. Pas de baisse de prix, ou plus faible qu'annoncé, voire même une augmentation des prix, rien à voir avec la promesse initiale. Par ailleurs, le géant chinois était bien incapable de prouver qu'il prenait soin de l'environnement comme annoncé. Une entreprise responsable qui limite son impact environnemental en diminuant d'un quart ses émissions de gaz à effet de serre, selon la publicité, mais pour l'heure, juste un vœu pieux.
La France exige la libération immédiate de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de 3 ans. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est voulu très ferme aujourd'hui, alors que l'on a appris hier soir que les deux Français étaient inculpés pour espionnage au profit du Mossad israélien, un chef d'accusation passible de la peine de mort dans le régime des Mollahs. Cécile Kohler et Jacques Paris sont les derniers Français détenus en Iran, mais il y a d'autres Occidentaux en prison dans le pays, Étienne Monin.
On ne possède pas de chiffres précis, mais un ordre d'idées sur ces Occidentaux qui ont été arrêtés par le régime iranien. On parle d'un peu plus d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles 2 Suédois avec la double nationalité, 2 Allemands qui ont aussi la nationalité iranienne et un Irano-Britannique ainsi qu'un Autrichien. Il y a 2 ans, la France comptait encore 6 prisonniers en Iran. La plupart avaient été arrêtés en 2022, un peu avant ou après le mouvement de contestation Femmes, Vie, Liberté qui a bousculé le régime. Pour la plupart, ils ont été libérés printemps 2023. 5 Américains, 1 Belge, 1 Espagnol, 1 Danois notamment, étaient alors aussi sortis de prison sur cette même année. Le dernier Français relâché, Olivier Grondeau, est rentré chez lui en mars dernier. Mais l'opération militaire d'Israël pourrait modifier le paysage. Récemment, un porte-parole du pouvoir judiciaire iranien a annoncé de nouvelles arrestations de ressortissants étrangers dans différentes provinces pour coopération avec Israël. Des procédures auraient été ouvertes. La presse fait état d'au moins 4 arrestations d'Européens, dont 2 pour espionnage.
Étienne Monin de la rédaction internationale de Radio France. Le Mali est en train de basculer dans une forme de dictature. Le régime militaire au pouvoir depuis 2021 accorde un nouveau mandat de 5 ans renouvelable sans élection à son chef, le général Assimi Goïta. C'est lui-même d'ailleurs qui doit promulguer la loi autorisant un règne illimité. Une fois l'affaire réglée, Assimi Goïta ne sera plus président de transition, mais président de la République malienne, Nathanaël Charbonnier.
C'est connu, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les militaires maliens avaient promis de remettre le pouvoir aux civils en 2024, or non seulement ils ont dépassé la date, mais en plus ils vont rester aux commandes du pays. Pour le président du conseil de transition malien, il s'agit d'une avancée majeure dans la refondation du Mali, il va même jusqu'à assurer que cela est conforme à la volonté du peuple. Une affirmation qui n'est pas du goût de tout le monde, et notamment de la plupart des partis politiques qui ont boycotté la concertation nationale et qui ont été dissous depuis. Il faut dire que les militaires ne cessent de restreindre les libertés et ne parviennent pas, comme ils s'y étaient engagés, à ramener le calme dans le pays qui est confronté à une profonde crise sécuritaire depuis maintenant 13 ans. Cette semaine encore, l'armée a été attaquée par des djihadistes dans plusieurs villes de l'Ouest. Dans ces conditions, il n'est pas dit que transformer le Mali en une dictature militaire soit la solution attendue qui fera oublier ses échecs et ramènera finalement la paix dans cette partie du Sahel.
Nathanaël Charbonnier, outre le Mali, 2 autres pays sahéliens sont dirigés par des juntes militaires qui ont rompu avec la France, le Burkina Faso et le Niger. Après Emmanuel Macron, mardi, c'est au tour de Donald Trump d'appeler Vladimir Poutine. Le président américain est actuellement au téléphone avec son homologue russe. Pas de précision à ce stade sur l'objet précis de la conversation, mais le Kremlin affirme qu'il communiquera à l'issue de l'appel. Les États-Unis ont décidé cette semaine de geler une partie de leur livraison militaire à l'Ukraine, mesure qui a été saluée à Moscou. On termine ce journal avec le temps. Demain, le soleil s'impose sur presque tout le pays, dans une atmosphère nettement plus respirable. Les températures minimales iront de 9 à 14 degrés au nord, de 20 à 27 degrés près de la Méditerranée, où la chaleur persiste. Demain après-midi, il fera entre 21 et 38 degrés des côtes bretonnes au sud-est. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Élise Leu.